ॐ श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा.
Bonjour Andrea. Aujourd'hui, je vais vous lire quelque chose que Sri Aurobindo a écrit dans son livre Les Poèmes. Alors, le calme ou le silence, ce que j'ai eu, la preuve en est que c'est à partir d'un silence absolu du mental que j'ai publié le Bandé Mataram pendant 4 mois. Écrit les 6 volumes de la Ria, sans parler de toutes les lettres que j'ai écrites depuis lors. La réalisation personnelle du divin peut être quelquefois avec forme, quelquefois sans forme. Sans forme, c'est la présence de la personne divine vivante, sentie en toute chose. Avec forme, elle arrive avec l'image de celui à qui l'adoration est offerte. Le divin peut toujours se manifester dans une forme pour le bhakta ou le chercheur. On le voit dans la forme en laquelle on l'adore ou on le cherche, ou dans une forme appropriée à la personnalité divine qui est l'objet de l'adoration. La concentration sur Krishna est une offrande de soi à l'Ishta Deva. Si vous atteignez Krishna, vous atteignez le divin. Si vous pouvez vous donner à lui, vous vous donnez à moi. Alors Sri Aurobindo explique votre divinité de prédilection. Le nom est la forme de la divinité que préfèrent votre nature et votre personnalité, et qui sont un nom et une forme de la divinité transcendante universelle. C'est l'explication d'Ishta Deva. Quelle que soit la forme de moi qu'un dévot veuille adorer avec foi, c'est moi-même qui rend sa foi ferme et inébranlable. Bhagavad Gita. Matière et esprit sont un. Matière et esprit sont un. L'esprit est l'âme et la réalité de ce que nous percevons comme matière. La matière est une forme et un corps de ce que nous réalisons comme l'esprit. La spiritualité, c'est quand vous commencez à avoir connaissance d'une autre conscience que l'ego, et vous vous mettez à vivre de plus en plus avec elle et sous son influence, une autre conscience. C'est cette conscience vaste, infinie, existant en soi, pure de l'ego, qu'on appelle l'esprit, le moi, le brahman, le divin. Aussi, ceci doit être nécessairement le sens de la spiritualité. La spiritualité ne peut venir que par une ouverture du mental, du vital et du physique à l'âme la plus intime, au moi supérieur, au divin, et par leur subordination aux forces et à l'instrumentation spirituelle comme canaux de la lumière intérieure, de la connaissance et du pouvoir plus haut. Les autres choses mentales, esthétiques, vitales sont souvent improprement appelées spiritualité, mais il leur manque le caractère essentiel sans lequel le mot perd son sens véritable. Une mixture d'aspirations mentales et d'enthousiasme et d'ardeur vitaux, enflammée par une certaine forme de croyance profonde ou élevée, ou de concentration de soi ou de zèle altruiste, est très communément prise à tort pour la spiritualité. Mais la spiritualité n'est pas une intellectualité supérieure, ni un idéalisme, ni une tournure éthique du mental, ou une pureté et une austérité morale. Elle n'est pas une religiosité ou une ferveur émotionnelle ardente et exaltée, ni même un composé de toutes ces choses excellentes, une croyance, une conviction ou foi mentale, une aspiration émotionnelle, une réglementation de la conduite, conformément à une formule religieuse ou éthique, ne sont pas un accomplissement et une expérience spirituelle. Ces choses sont d'une valeur considérable pour le mental et la vie. Elles ont une valeur pour l'évolution spirituelle elle-même, comme mouvement de préparatoire disciplinant, purifiant ou donnant une forme convenable à la nature. Mais elles appartiennent encore à l'évolution mentale. Le commencement d'une réalisation, une expérience, un changement spirituel n'est pas encore là. La spiritualité est en son essence, un éveil à la réalité intime de notre être, à un esprit, moi, âme, qui est autre que notre mental, notre vie et notre corps. Une aspiration intérieure à connaître, à sentir, être cela, à entrer en contact avec la réalité plus grande, transcendant et pénétrant partout l'univers, qui habite aussi notre être propre, à être en communion avec elle et en union avec elle. Et un retournement, une conversion, une transformation de la totalité de notre être en résultat de l'aspiration, du contact, de l'union, une croissance ou un réveil dans un nouveau devenir et un nouvel être, un moi nouveau, une nature nouvelle. Ça, c'est la spiritualité dans son essence. La signification de la spiritualité est une nouvelle et plus grande vie intérieure de l'homme, fondée sur la conscience de son moi et esprit vrai, le plus intime, le plus élevé et le plus vaste, pour laquelle il reçoit la totalité de l'existence comme une manifestation progressive du moi dans l'univers et sa vie propre à la fois comme un champ de transformation possible où son sens divin sera découvert. Ses potentialités hautement évoluées. Les formes actuellement imparfaites changées en une image de la perfection divine et comme un effort, non seulement pour voir, mais pour vivre au dehors ces possibilités plus grandes de son être. Et cette conscience de son vrai moi et esprit doit amener avec elle une conscience aussi de l'unité de l'individu et de la race, et une union harmonieuse de la vie de l'homme avec l'esprit dans la nature et l'esprit de l'univers. La spiritualité est dans sa nature même une chose subjective et non une chose mécanique. Elle n'est rien si elle n'est vécue intérieurement Et si la vie extérieure ne découle pas de cette vie intérieure? Symbole, type, convention, idée ne sont pas suffisants. Un symbole spirituel n'est qu'une étiquette vide de sens, à moins que la chose symbolisée ne soit réalisée dans l'esprit. Une convention spirituelle peut perdre ou expulser son esprit et devenir une fausseté. Un type spirituel peut être un moule temporaire dans lequel pourra s'écouler une existence spirituelle, mais il est aussi une limitation et peut devenir une prison où il se fossilisera et périra. Une idée spirituelle est un pouvoir, mais seulement quand elle est à la fois intérieurement et extérieurement créative. Ici, nous avons à élargir et à approfondir le principe pragmatique selon lequel la vérité est ce que nous créons. Et dans ce sens d'abord, quelle est que nous créerons en nous-mêmes, autrement dit, ce que nous devenons. Sans doute, la vérité spirituelle existe éternellement au-delà, indépendante de nous, dans les ciels de l'esprit, mais tant qu'elle n'est pas vécue, elle ne sert à rien pour l'humanité ici-bas. Elle ne devient pas une vérité de la terre, une vérité de la vie. La perfection divine est toujours là, au-dessus de nous. Mais pour l'homme, spiritualité veut dire devenir divin en conscience et en acte, et vivre intérieurement et extérieurement la vie divine. Tous les sens moindres donnés à ce mot sont des tâtonnements maladroits et des impostures. L'avatar est celui qui vient pour ouvrir une humanité, la voie vers une conscience plus haute. Un avatar est aussi, pour ainsi dire, quelqu'un qui est conscient de la présence et du pouvoir divin né en lui ou descendu en lui et gouvernant du dedans sa volonté, sa vie et son action. Il se sent intérieurement identifié à cette présence et à ce pouvoir divin. Le mot « avatar » veut dire « descente ». C'est une descente du divin au-dessous de la ligne qui sépare le monde et le statut divin du monde ou statut humain. Quand le divin descend, il prend sur lui le fardeau de toute l'humanité de façon à aller plus loin. Il devient humain de façon à montrer à l'humanité comment devenir divine. L'avatar est un réalisateur, un fondateur de quelque chose d'essentiel et de radical, nécessité par l'évolution terrestre, qui est l'évolution de l'esprit incarné par des stades successifs jusqu'au suprême. Le maintien du dharma dans le monde n'est pas le seul objet de la descente de l'avatar. Ce grand mystère du divin manifeste dans l'humanité, car le maintien du dharma n'est pas en soi un objet tout à fait suffisant, ni le suprême but possible pour la manifestation d'un Christ un Krishna ou un Bouddha. Mais il est seulement la condition générale d'un but plus élevé et d'une utilité souveraine et divine. Il y a en effet deux aspects de la naissance divine. L'un est une descente, la naissance de Dieu dans l'humanité, la divinité se manifestant dans une forme et une nature humaine, l'avatar éternel. L'autre est une ascension, la naissance de l'homme dans la divinité, l'homme s'élevant dans la nature et la conscience divine. C'est l'être né à nouveau dans une seconde naissance de l'âme. C'est cette nouvelle naissance que l'avatarité et le maintien du Dharma sont destinés à servir. L'avatar est une manifestation d'en haut, de ce que nous avons à développer d'en bas. C'est la descente du divin dans une naissance divine de l'être humain, en laquelle nous, créatures mortelles, nous devons nous élever. C'est l'exemple divin, attrayant donné par Dieu à l'homme, dans le type et la forme même et le modèle parfait de notre existence humaine. Et pourquoi l'avatar devrait-il se proclamer tel, sinon en de rares occasions à Arjuna ou à un petit nombre de bhakta ou de disciples? C'est aux autres de découvrir qui il est. Il n'est pas toujours en train de dire et sans doute ne peut-il jamais dire qu'en des moments comme celui de la Gita, je suis lui. Alors là, je vais vous lire un peu, pour terminer ce texte, la description des aspects de la Mère divine. Celle que nous adorons comme la mère et la force consciente divine qui domine toute l'existence. Une est pourtant si multiple d'aspects que suivre son mouvement est impossible, même au mental le plus prompt et à l'intelligence la plus libre ou la plus vaste. La mère et la conscience et force du suprême, est loin au-dessus de tout ce qu'elle crée. Il y a trois modes d'être de la mère. On peut avoir connaissance quand on entre en contact d'unité avec la force consciente qui nous soutient, nous et l'univers, transcendante, la Shakti suprême originelle. Elle se tient au-dessus des mondes et relie la création au mystère à jamais non manifesté du suprême. Universelle, la Mahashakti cosmique. Elle crée tous ses êtres et contient et pénètre, supporte et conduit tous ces millions de processus et de forces. Individuelle, elle incarne le pouvoir de ces deux modes plus vastes de son existence, les rend vivants et proches de nous, et elle est la médiatrice entre la personnalité humaine et la nature divine. Alors, trois modes d'être de mère, transcendante, la Shakti suprême originelle, universelle, la Mahashakti cosmique, et individuelle, celle qui incarne le pouvoir de ces deux modes plus vastes de son existence. La Shakti Une originelle transcendante, la mer, se tient au-dessus de tous les mondes et porte dans sa conscience éternelle le suprême divin. Seule, elle héberge le pouvoir absolu et l'ineffable présence, contenant ou appelant les vérités qui doivent être manifestées. Elle les fait descendre du mystère où elle était cachée, dans la lumière de sa conscience infinie, et leur donne une forme de force dans son pouvoir omnipotent et sa vie illimitée et un corps dans l'univers. Le suprême est manifeste en elle pour toujours, comme l'éternel Satchitananda, manifesté à travers elle dans les mondes comme la conscience une et duelle d'Ishvara Shakti et le principe duel de Purusha Prakriti, incarné par elle dans les mondes et les plans et les dieux et leur énergie, et figuré grâce à elle comme tout ce qui est dans les mondes connus et dans les autres inconnus. Tout est son jeu avec le suprême. Tout est sa manifestation des mystères de l'éternel, les miracles de l'infini. Tout est elle, car tout est parcelle et portion de la force de la conscience divine. Rien ne peut être ici ou ailleurs que ce qu'elle décide et le suprême sanctionne. Rien ne peut prendre forme, excepté ce que mû par le suprême. Elle perçoit et façonne après l'avoir mis en germe dans son Ananda créateur. La Mahashakti, la mère universelle, exécute tout ce qui du suprême lui est transmis par sa conscience transcendante et elle entre dans les mondes qu'elle a faits. Sa présence les remplit et supporte avec l'Esprit divin et avec force et délice divin, soutenant tout sans lesquels il ne pourrait jamais exister. Ce que nous appelons la nature ou Prakriti est seulement son aspect exécutif le plus extérieur. Elle ordonne, arrange l'harmonie de ses forces et de ses processus, impulse les opérations de la nature et se meut parmi elles, secrète ou manifeste dans tout ce qui peut être vu ou expériencé ou mis dans le mouvement de la vie. Chacun des mondes n'est rien qu'un seul jeu de la Mahashakti, de ce système des mondes ou univers, qui est là comme l'âme et personnalité cosmique de la mère transcendante. Chacun est quelque chose qu'elle a vu dans sa vision, recueilli dans son cœur d'amour et de beauté, et de pouvoir, et créé dans son Ananda. La mère non seulement gouverne tout d'en haut, mais descend dans notre triple univers inférieur du mental, de la vie et du corps. Impersonnellement, toutes les choses ici même, même les mouvements de l'ignorance, sont elles-mêmes dans un pouvoir voilé, et ses créations dans une substance diminuée. Son corps de nature et sa force de nature. Et elle existe parce que, mue par le fiat mystérieux du suprême, pour exécuter quelque chose qui est là, comme un masque, l'âme et les formes de l'ignorance. mais personnellement aussi. Elle a daigné descendre ici, dans l'obscurité, pour qu'elle puisse la conduire à la lumière, dans la fausseté et l'erreur, pour qu'elle puisse les conduire à la vérité, dans cette mort, pour qu'elle puisse la changer en une vie comme le Suprême. Dans cette douleur du monde, et sa peine et sa souffrance obstinée, pour qu'elle puisse y mettre fin dans l'extase transformante de son sublime Ananda. Alors, je termine en son profond et grand amour pour ses enfants. Elle a consenti à revêtir sur elle le manteau de cette obscurité, condescendue à subir les attaques et les influences torturantes des pouvoirs de l'ombre et du mensonge, supportée de passer par les portails de la naissance qui est une mort, pris sur elle-même les affres et les tourments et les souffrances de la création, puisqu'il apparaît qu'ainsi seulement pourrait-elle être élevée à la lumière, à la joie et à la vérité et à la vie éternelle. Tel est le grand sacrifice appelé parfois le sacrifice du Purusha, mais aussi, beaucoup plus profondément, l'holocauste de la Pakriti, le sacrifice de la Mère divine. Par la vérité est voilée votre immuable vérité, là où sont dételés les coursiers du soleil et où se tiennent ensemble immobiles ces myriades de radiance, s'éteint. J'ai vu la forme glorieuse et la plus glorieuse des formes divines, ou la forme suprême de l'être divin. Rigveda 5, 62, 1. La face de la vérité est cachée par un brillant couvercle d'or. Celui-là, enlève-le, ô toi, soleil nourricier, pour la loi de la vérité pour la vue. Ô nourricier, ô unique voyant, ô ordonneur, ô soleil illuminateur, au pouvoir du Père des créatures, dispose tes rayons, rassemble-les en une seule lumière, cette splendeur qui est ta forme la plus belle et la plus auspicieuse de toutes. Je la contemple en toi. Ce Purusha ici, là, partout, je suis lui, Isha Upanishad. Alors là, c'est la fin des extraits de Sri Aurobindo. Le dernier des extraits ci-dessous sont parmi les passages des Écritures sacrées de l'Inde le plus souvent cités, traduits, paraphrasés et commentés par Sri Aurobindo. Alors, je termine. Et je dépose cette lecture au pied de Sri Aurobindo et de Doucement.
Om Shri Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarva Karyeshu Sarvada Om Shanti Shanti Shanti.